donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux pour une lecture au chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Et ce soir, je conclue ce message commencé la semaine dernière, qui est une étude sur ce qu'on appelle en théologie l'état intermédiaire, c'est-à-dire une étude sur l'au-delà, et plus précisément ce qui se passe entre le moment de la mort d'un homme et le temps de la résurrection. Tous les hommes meurent, sauf jusqu'à présent trois qui ont été emmenés au ciel, mais même parmi ces trois, un est mort, Jésus. Et tous les hommes ressusciteront aussi, puisque les justes comme les méchants ressusciteront, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Alors c'est ce que nous allons revoir ce soir, je vais faire une synthèse de ce qu'on a vu la semaine dernière avant d'avancer, mais lisons ensemble la parole de Dieu, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce que nous comprenons déjà par ce texte, c'est que Jésus a vécu parmi nous afin de mourir pour nous. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, chapitre 9, verset 28, « Christ s'est offert une seule fois à la mort pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Donc Christ est venu sur cette terre, non pas pour vivre, en quelque sorte, mais avant tout pour donner sa vie. Notre façon de concevoir sa présence parmi nous. Donc la semaine dernière, nous avons vu ensemble ce que la Bible nous dit concernant ce qu'on appelle l'au-delà. Je ne sais pas si elle nous dit tout, mais ce qui est certain, c'est qu'elle nous dit tout ce que nous devons savoir, et surtout tout ce que nous devons croire. Et s'il y a des choses qui demeurent cachées, c'est que Dieu n'a pas estimé nécessaire que nous les connaissions, qu'en tout cas ça n'amenait rien de plus à notre foi. Et si je dis cela, c'est pour nous garder, comme l'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Corinthiens, de vouloir aller au-delà de ce qui est écrit. Car évidemment, dans ce domaine, comme parmi beaucoup d'autres, mais particulièrement dans ce domaine, certains peuvent avoir la tentation d'aller plus loin. Mais dans ce domaine particulièrement, en allant plus loin, on s'expose à de nombreux risques spirituels. Et donc, comme je l'ai dit, c'est dans une approche de généraliste que j'aborde cette étude. Je ne suis pas là pour vous apporter des révélations extraordinaires qui me seraient venues par la visitation d'un ange. Je suis là pour essayer de décortiquer avec vous quelques passages bibliques pour édifier notre foi et en tout cas découvrir ce qui est utile de connaître quant à ce sujet. Nous sommes arrêtés la semaine dernière sur cette présentation que nous découvrons à la fois dans l'Ancien Testament et dans certains textes du Nouveau Testament, et notamment l'histoire de Lazare et du riche dans Luc 16, cette présentation de l'au-delà, donc ce qui se passe après la mort, lorsque notre esprit, ce souffle de vie que Dieu nous donne, repart à lui et notre corps mis dans la tombe, eh bien l'âme demeure et l'âme s'en va dans un endroit particulier. Et cet endroit est déterminé par les choix que l'homme a fait dans sa vie. Et si l'homme a fait le bon choix, c'est-à-dire que s'il a fait le choix de Dieu, le choix d'une vie de justice, eh bien, cette âme a la joie, la paix, le repos de se retrouver dans ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Et là, elle se trouve dans l'attente d'une promesse de délivrance que le Seigneur a donnée aux anciens à travers les prophètes. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas le seul endroit où les morts vont, ou plutôt les âmes des morts vont. Il en existe un autre, qui s'appelle le puits de l'abîme, l'abyss, le Tartarus, suivant les expressions qu'on peut retrouver. En tout cas, un endroit qui n'est pas très agréable à visiter, puisque même les démons supplie Jésus de ne pas les y envoyer. Dans cet endroit se retrouvent les âmes, dans un état de conscience, les âmes de tous ceux qui n'ont pas cru, qui ne se sont pas repentis, et qui sont là, enfermés, dans l'attente du jugement dernier. Et entre ces deux parties qui forment ensemble le séjour des morts, il y a un gouffre. Un gouffre qui ne permet donc ni aux uns ni aux autres de pouvoir changer. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham ne peuvent pas chuter, tomber dans l'abîme, et ceux qui sont dans l'abîme ne peuvent pas accéder au sein d'Abraham, ils sont séparés. Et ça, ça forme le séjour des morts. Mais tout ceci se situe avant Jésus-Christ. Car à la venue de Jésus, à sa mort et surtout à sa résurrection, les choses ont été profondément bouleversées. Si les choses ont été bouleversées sur la terre par la venue de Jésus-Christ, elles ont aussi été bouleversées dans le séjour des morts. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe donc après la croix ? Au bout de ses souffrances et de son agonie, Jésus se tourne une dernière fois vers son Père et là il lui confie son souffle de vie, son esprit. Et il nous est dit ensuite qu'à cet instant il poussa un grand cri et il baissa la tête. La vie venait de quitter Jésus, le souffle de vie venait de le quitter, remonter au Père et son corps était maintenant mort. Et bientôt il serait déposé dans la tombe. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il advient de son âme. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Mais la question, c'est de savoir comment est-il descendu ? Où est-il descendu ? Qu'a-t-il fait dans ce séjour des morts ? Nous ne pourrons pas donner une explication concrète à tous les éléments, parce qu'il y en a beaucoup qui nous dépassent. Et certains des textes que nous allons consulter sont très étranges. Mais la Bible nous permet de comprendre des grandes lignes de ce qui s'est passé et de nous mettre en garde contre certaines déviances et certaines fausses doctrines. Jésus, à sa mort, à la croix, est donc descendu dans ce qu'on appelle le Sheol, l'Hadès. Mais je veux affirmer qu'il est descendu dans le sein d'Abraham et qu'il n'est pas descendu dans ce qu'on peut appeler l'enfer. Le credo catholique romain dit que Christ est descendu aux enfers. Non, Christ n'est pas descendu aux enfers, d'abord parce que les enfers sont aujourd'hui fermés. Nous l'avons vu. Elles ne seront ouvertes que plus tard, mais aujourd'hui, elles sont fermées. Et Jésus n'est pas descendu dans le séjour des morts vaincu. Il est descendu dans le séjour des morts vainqueur, conquérant. Ça ne m'arrive pas souvent de dire cela, mais je veux prendre le temps ce soir, comme je ne prétends pas avoir une autorité apostolique pour donner des noms, je me permettrai simplement de citer certains enseignements, et si vous souhaitez savoir qui sont ces gens derrière, vous viendrez me voir, je dirai simplement ce sont des gens qui ont certainement pignon sur de grandes télévisions. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de ces gens enseignent de fausses doctrines concernant la mort de Jésus. Et je veux prendre le temps de m'arrêter. Car certains enseignent ceci, que la mort de Jésus à la croix n'a pas été une victoire mais une défaite. A été un lieu où Satan l'a emporté sur Jésus. Et que Jésus n'est pas descendu dans le sein d'Abraham mais qu'il est descendu en enfer. Et qu'à ce moment-là, il fallait que Jésus ne meure pas simplement corporellement, physiquement, parce que ce n'était pas suffisant, mais il fallait que dans l'enfer, Jésus meure spirituellement. Il fallait que le Satan vienne prendre possession de l'esprit de Jésus, de l'âme de Jésus, et que pendant les 3 jours qu'il a passé dans ce lieu, il souffre, Et ces souffrances, d'après eux, étaient nécessaires pour expier nos péchés. Et puis au bout de ces 3 jours, Jésus serait né de nouveau. Là, en enfer, il serait né de nouveau. Et aurait été ainsi le premier des nouveau-nés et le premier des ressuscités. Je ne peux simplement que citer un texte pour nous interroger quand même avec un appui biblique sur tous ces enseignements. Je ne peux citer que 1 Pierre 3,18. 1 Pierre 3,18 qui nous dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». La question du péché a été réglée à la croix. La croix n'est pas une défaite. La croix est un lieu de combat. Le serpent a mordu le talon du Messie, mais le Messie a écrasé de son talon le serpent. Et il a livré publiquement en spectacle Satan et les autorités. Et quand il descend dans le séjour des morts, il y descend en conquérant. Il y descend pour y manifester sa puissance. Parce que Dieu a voulu tout réconcilier par lui-même. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur terre et ce qui est sous terre. Et Dieu a voulu que, en tout lieu, le nom de Jésus-Christ soit reconnu comme le nom du Fils du Dieu puissant. Alors oui, je m'élève contre ces enseignements et je vais vous dire, beaucoup d'entre vous, vous les écoutez, vous lisez ces livres et c'est pour ça que je ne veux pas vous trouver plus d'avantages si vous voulez savoir. Mais parmi ces prédicateurs ou prédicatrices très connues, l'une d'entre elles a écrit « Il n'y a aucune espérance pour vous d'aller au paradis si vous ne croyez pas d'abord que Christ a pris votre place en enfer. » Ça, c'est une doctrine qui a cours, mais elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Christ a tout accompli pour nous à la croix. Son corps a été mis dans la tombe, mais son âme est descendue puissante, conquérante. La vie a pénétré dans la mort, dans le séjour des morts. Christ est donc descendu dans le sein d'Abraham. Mais le Seigneur est descendu avec assurance et confiance, car il savait ce qui était écrit dans le psaume 16, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il nous est dit que le Fils a prié, a intercédé avec larmes, demandant à Dieu la délivrance, mais nous pourrions dire, mais quelle délivrance, puisqu'il est mort à la croix? Mais c'était la délivrance de la mort. Et il savait qu'il avait été exaucé du Père. Et il savait que quand bien même il offrait sa vie pour les hommes, Dieu ne permettrait pas que son fils voie la corruption et qu'il ne laisserait pas son âme livrée au séjour des morts. Et qu'est-ce que le Seigneur a donc fait dans ce séjour des morts? Je l'ai dit, pour moi, il s'est arrêté dans le sein d'Abraham. L'apôtre Pierre, au chapitre 3 et au chapitre 4, écrit des choses qui sont assez surprenante, que nous avons peut-être du mal à comprendre. Cette première épître de Pierre est pétrie d'hébraïsme et de culture hébraïque, juive, qui fait que ce n'est pas toujours simple dans notre culture chrétienne et occidentale à vraiment assimiler tout ce qu'il dit là, lorsqu'il nous dit que le Seigneur est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, etc. Et on a du mal avec ces textes à comprendre exactement, nous qui ne sommes pas de cette culture. Mais ce qui est certain donc, c'est que le Seigneur est descendu et là, il a prêché. Il a proclamé la parole. La proclamation de Jésus dans le séjour des morts, ce n'était pas un message d'appel à la repentance. C'était un message de confirmation. Aux uns, il a confirmé que les promesses annoncées par les prophètes s'accompliraient. Il est venu pour les délivrer. C'est ce que Osée avait dit, chapitre 13, verset 14, « Je les rachèterai de la puissance de la mort, du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. » Et le Seigneur est venu leur confirmer cela à ceux qui étaient morts dans la foi, sans obtenir les promesses, sans atteindre la perfection, parce qu'il n'était pas possible qu'ils l'atteignent sans nous, avant nous. Jésus est venu confirmer que, pour prix de leur foi, il les délivrerait du séjour des morts. Mais dans ce lieu, sans avoir besoin d'aller jusque dans le puits de l'abîme, Jésus a confirmé à tous ceux qui étaient en bas captifs que leur sort était bien scellé et qu'il n'y avait aucune espérance pour eux de voir les choses changer. Jésus l'a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Et la repentance n'est possible que de notre vivant. Et donc Jésus n'a rien changé entre la répartition des populations dans l'un ou dans l'autre, mais il n'a fait que confirmer ce qui était écrit dans la parole. Christ a donc prêché, après être descendu dans le séjour des morts, et Christ a ensuite ouvert le sein d'Abraham. Depuis le début de la création et de la mort des hommes, ce sein d'Abraham, appelé ainsi, était le lieu où tous ceux qui sont morts dans la foi étaient recueillis. Leur âme était recueillie dans ce lieu. Mais ce lieu était là comme une prison. Ce n'était pas un lieu de tourment, mais c'est un lieu duquel on ne pouvait sortir, inviolable, hermétique. Et nous l'avons vu la dernière fois, le roi Ézéchias se lamentait de ce que dans ses jours des morts, il ne pourrait plus louer le Seigneur. Parce que c'était les vivants qui le peuvent, mais lui ne le pourrait plus parmi les morts. Et quand Christ est descendu dans ses jours des morts, il a prêché, il est aussi celui qui a forcé la mort. Il a vaincu sur son propre terrain celui qui avait la puissance de la mort. Et au troisième jour, la mort n'a pu garder captif Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit est venue visiter ce séjour des morts. Et les portes du séjour des morts ont été renversées par la puissance de la résurrection de Jésus. Et en remontant d'entre les morts, Jésus est remonté en prenant les clés du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1er verset 17 à 18, « Ne crains point, Jésus parle à Jean, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il tient les clés, il a la puissance, il a l'autorité. Et rappelons-nous ce qu'il dit aussi aux apôtres et à Pierre le premier dans Matthieu 16, 18. « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il tient les clés. Les portes du séjour des morts ne pouvaient rester closes sur celui qui est la vie. Elles ont explosé. Comme lorsque le Saint-Esprit descendit dans la prison de Philippe, là où Paul et Silas étaient enfermés, la prison a tremblé, les gonds ont sauté, les portes se sont ouvertes. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au jour de la résurrection de Jésus. Et comme l'apôtre Paul l'écrit dans 2 Timothée 1:10, Christ a détruit la puissance de la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a vaincu. La mort ne pouvait retenir Jésus. Jésus a forcé les portes du séjour des morts. Il est ressuscité, il est remonté, il est vivant. Lui qui était descendu, comme l'apôtre Paul l'écrit dans Éphésiens, est remonté d'entre les morts. Et il rajoute ceci, Éphésiens 4, 8, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Qui étaient ces captifs? Eh bien, tous ceux qui avaient été tenus dans le sein d'Abraham, enfermés, même s'ils étaient dans le repos, et surtout dans la tente de la délivrance. Et maintenant que les portes étaient ouvertes, Jésus les a pris avec lui. Il a emmené des captifs. Il a vidé le sein d'Abraham, qui ne sert plus à rien puisque les portes claquent à tout vent maintenant, il n'y a plus aucun gond pour les retenir. Et on dit que Christ a transféré le séjour des justes là-haut, dans le paradis. Dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anciens, lorsqu'ils mouraient dans la foi, Jacob le disait, « Je descendrai retrouver mon fils. Je descendrai dans le séjour des morts. » Mais quand quelqu'un meurt en Jésus-Christ, il ne regarde pas la terre. Il lève les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel. Parce que nous avons cette assurance dans nos cœurs que même si nous rendons notre souffle de vie à Dieu, notre âme ne lui échappe pas, mais que pour prix de notre foi, il la prend avec lui dans son paradis. Alors qu'est-ce que le paradis de Jésus-Christ? Eh bien, c'est ce que Dieu avait en réserve pour nous. C'est ce que Dieu avait en réserve pour nous et qu'il avait tenu caché, fermé, tant que Christ n'était pas venu. Et il n'avait pas voulu que les anciens morts dans la foi parviennent dans ce paradis avant nous. Et surtout avant Jésus-Christ. Paradis vient d'un mot perse, pardès, qui veut dire jardin clos. Un jardin. Dans notre imaginaire, ça nous renvoie à l'Éden. Mais dans la Bible, il n'est pas dit que l'Éden est un paradis. Ce sont les théologiens qui ont ensuite appelé l'Éden un paradis terrestre. Mais c'est vrai qu'il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, que « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cet arbre de vie qui était dans l'Éden, on le retrouve maintenant dans le paradis, dans le ciel. Le mot paradis revient trois fois dans le Nouveau Testament, dans le texte de l'Apocalypse que je viens de lire, mais aussi dans Luc 23, 43, vous connaissez bien ce passage, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus vient de parler aux brigands. De Corinthiens 12, 13, 14, un passage très, très intéressant où Paul parle d'un homme qui fut enlevé dans le paradis. Et il parle, on le comprend, d'une expérience personnelle. Donc le paradis, c'est ce lieu que Dieu tenait en réserve pour nous tous, un endroit extraordinaire qui a été ouvert au moment de l'ascension de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont morts dans la foi avant la venue de Jésus y sont entrés. Et tous ceux qui sont morts dans la foi depuis que Jésus est venu parmi nous y ont aussi accès. Le paradis, donc, le nouveau séjour des morts. Et là, les âmes de ceux qui sont morts en Christ sont aussi dans l'attente, dans le repos, mais elles n'attendent plus la délivrance parce qu'elle est venue. Elles ont atteint la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais elles demeurent malgré tout dans l'attente de la résurrection et de la rédemption des corps qui doit venir au temps marqué par le Seigneur. Donc le paradis, c'est l'endroit où les justes se retrouvent après leur mort. Tous les sauvés par grâce vont vers Christ dans ce paradis au moment de leur mort. Et donc, c'est important. Nous devons nous affermir dans cette connaissance et nous rappeler que par la mort, Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. et qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas vivre dans la crainte de la mort, qui serait pour nous comme une servitude. Paul écrit dans Romains 8 que la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la mort. La mort est moche, la mort est affreuse, la mort est hideuse, la mort est nauséabonde, elle est tout ce que vous voulez. Mais elle ne doit pas nous faire peur. J'ai vu des miens mourir dans le Seigneur. Vous avez vu des vôtres mourir dans le Seigneur. Et ce que j'ai vu a marqué ma vie, marqué ma foi. J'ai vu mes grands-mères, là, l'une à l'article de la mort, mourir quelque temps plus tard. J'en ai vu une autre, là, sur son lit de mort. J'ai vu mon père. J'ai vu mon père sur son lit, cloué par la maladie, qui avait détruit son corps. Je regardais ses yeux, je regardais son visage. Et lorsque nous essayons de capter un regard, c'est comme si nous le dérangions déjà. Parce qu'il était ailleurs. Il était en communion déjà avec le Seigneur. Et c'était la paix qui était sur lui. Et les médecins étaient étonnés de ce que, malgré ce cancer qui détruisait son corps, il ne souffrait pas. Ils étaient même étonnés, c'était un plein été à Grenoble, il faisait très chaud, de ce que la seule chose qu'il pouvait manger, Dieu lui avait fait cette grâce, parce qu'il aimait ça, c'était des glaces à la menthe. Mais j'ai été impressionné par cette paix, cette tranquillité jusqu'au bout. Et de me dire, mais il est déjà là-haut. Et quand il est parti, il n'a fait que rejoindre celui qu'il aimait. L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit, cette phrase nous étonne, mais que son désir c'est de s'en aller et d'être auprès de Christ, ce qui est le meilleur. Philippiens 1, 23. Il écrit même dans 2 Corinthiens 5, 8 qu'en lui, eh bien, nous préférons quitter notre corps et revêtir cette demeure éternelle. Mais attention, attention, ne déformons pas ce que Paul a écrit. Ce n'est pas à nous à devancer le temps. Le maître de la vie et de la mort, c'est Dieu. Jamais Paul n'a eu l'idée de nous dire supprimons-nous, coupons nous-mêmes le fil de la vie, comme ça nous irions plus vite auprès du Père. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Dieu est le Dieu des vivants. Et l'apôtre Paul l'écrit encore une fois, 1 Corinthiens 15, 55, reprenant le prophète Osée, « Ô mort, où est ta victoire ?» Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nos frères, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Nous ne la cherchons pas. Nous ne l'aimons pas. Dieu n'aime pas la mort. Dieu est la vie. Mais nous ne devons plus avoir peur d'elle. Parce que la mort ne peut rien contre mon âme. Oh ! Si le Seigneur ne revient pas avant ma mort, oui, mon âme pourra s'emparer de mon corps. Pardon, la mort pourra s'emparer de mon corps. Mais Dieu est puissant pour le racheter. Mais mon âme, elle n'y peut rien. Elle lui échappera. Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance dans la puissance de résurrection de mon Seigneur. Ainsi, nous demeurons dans ce paradis, dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de ce jour merveilleux où la voix de l'archange se fera entendre, où la trompette sonnera avec éclat et où les morts en Christ ressusciteront en premier avant que les vivants, Dieu voulant nous, les rejoignions sur les nuées du ciel à la rencontre de notre Seigneur. Mourir dans la foi, quelle belle espérance, quelle assurance. Que dire encore du paradis ? Ce paradis, c'est donc un jardin, oui, l'arbre de vie y est. Je ne pense pas que la Jérusalem céleste soit encore accessible. Peut-être les paradis, faut-il considérer le paradis comme les jardins qui amènent à la cité, j'en sais rien. Mais la cité de Dieu, pour l'instant, est encore fermée. Mais déjà, être dans les jardins du Seigneur, c'est magnifique. Mais le paradis, plus que ça, c'est le lieu où ceux qui sont morts ont rendez-vous avec Jésus. C'est rare que Jésus ait prié ainsi, mais dans Jean 17, 24, il s'adresse à son Père et il lui dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. » Parce que Jésus, d'habitude, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Mais là, dans cette prière, ce n'est pas qu'il va l'imposer à Dieu, parce qu'il sait qu'il est en accord avec la volonté de Dieu. Mais il exprime sa foi, son amour. Père, je veux que là où je suis, c'est drôle qu'il parle comme ça, il se voit déjà là dans cette présence, dans cette communion avec le Père, il sait qu'il va bientôt mourir, il est déjà dans cette dimension, comme s'il était déjà délivré de, il voit au-delà d'ailleurs, Christ a accepté l'ignominie, la honte, parce qu'il avait en vue la joie, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui lui était réservée dans le ciel. Et je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit aussi, soit avec moi. Ça c'est le paradis. Être là où est Jésus. Et au jour de la résurrection, lorsque nous aurons retrouvé nos corps, mais ça c'est toute une autre histoire, vous retrouverez des messages sur ça, sur notre site internet, mais ensuite les portes de la cité céleste nous seront ouvertes. Qu'en est-il de ceux qui sont restés en bas ? Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas été enlevés avec le Seigneur au jour de sa résurrection parce qu'ils ne s'étaient pas repentis, ils n'avaient pas cru, eh bien cela, ils demeurent. Et tous ceux qui meurent loin du Seigneur encore descendent dans l'abîme profond. Et ils sont dans l'attente du jugement dernier. Car au jour de la résurrection, de la seconde résurrection, comme Apocalypse 20 le dit, eh bien ceux-là ressusciteront. Et ils ressusciteront, ils retrouveront un corps. Et parce que leur nom ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Et vous voyez la différence. Dans le séjour des morts aujourd'hui, ce sont des âmes qui souffrent. Mais dans les temps de feu, la géhenne, l'enfer, les enfers, ce sont des humains, corps. Corps et âme qui y seront. Avec des souffrances et des tourments au siècle des siècles. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Juste un point pour l'aborder. Il existe toutes sortes de fausses doctrines et d'histoires. On a parlé des limbes autrefois. Cet endroit un peu mystérieux où les enfants se retrouvaient avec des petites ailes dans le dos, ceux qui étaient morts enfants. Mais Jacques m'a montré un texte, en tant que même la doctrine catholique romaine a évolué sur ce point, ils ont peut-être réfléchi que ce n'était vraiment pas en cohérence avec les Écritures, ils ont dit non, les limbes des enfants n'existent pas. Il y a aussi, bien sûr, dans la doctrine catholique romaine, la question de l'enfer et du paradis. La doctrine catholique romaine dit que ceux qui sont morts non baptisés dans l'Église ou qui ont déchu de la grâce du baptême vont immédiatement dans la géhenne éternelle, sans passer par le séjour intermédiaire. Ils font donc fi du jugement dernier. Non, l'enfer éternel est fermé. Quand dans leur doctrine, quant à leur doctrine du paradis, il faut avoir atteint un certain degré de perfectionnement. Et seuls ceux qui ont atteint ce degré de perfectionnement vont directement au paradis. Ils s'appuient sur l'idée, d'après eux, que c'est la qualité de la sanctification et des œuvres qui assure à une personne sa place au paradis. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle quantité il faut. Ce qui veut dire que l'Église catholique romaine, apparemment, a une certaine opinion des gens qui la fréquentent, puisqu'elle pense que la plupart d'entre eux ne sont pas suffisamment sanctifiés pour accéder au moment de leur mort au paradis, qu'ils doivent passer par cet endroit qui s'appelle le purgatoire. Et là, dans ce feu purificateur, ils vont y passer un certain temps, en fonction de leur degré de sanctification, ce qui leur manque et des œuvres qui leur manquent. Le processus peut être accéléré par des messes qui sont données sur terre, et c'est pour ça que, eh bien, dans les églises catholiques, on procède à des messes, des prières pour ceux qui sont morts, afin d'accélérer le temps de purgation. C'est une doctrine qui n'a aucune base canonique. C'est une doctrine qui s'appuie sur certains textes juifs, que même les rabbins n'ont pas voulu reconnaître inspirés par Dieu, notamment des textes du deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, où il parle justement des cultes aux morts. Mais plus grave encore, la doctrine du purgatoire repose sur des fondements qui méprisent l'efficacité du sang de Christ. Puisque le sang de Christ n'est pas suffisant. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pas dans les prolongements, mais à la base, c'est la même chose. La mort de Christ, la mort corporelle de Christ à la croix n'est pas suffisante. Alors il faut en rajouter. Là, c'est les hommes qui doivent en rajouter. Mais nous ne croyons pas cela. Pas du tout. Christ est mort une fois pour toutes. Pour nous amener à la perfection. Voilà, j'ai voulu partager ces choses. Je vais regarder quelques instants. On va prendre quelques minutes pour partager quelques questions. Mais je voulais poser ces choses comme une espèce d'enseignement général qui met des principes, des grandes lignes, afin de nous éviter de partir dans des fausses directions et de rester comme ça sur les schémas principaux. Le reste, oui, il y a certainement beaucoup de choses encore à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, mais l'essentiel est là. Je pense que je vous ai donné ce qui est utile. Alors si vous avez besoin de réentendre tout ça, vous pourrez le voir en vidéo, puisque je remercie l'équipe vidéo qui a enregistré ces messages qui seront mis sur le site pour que vous puissiez reprendre point par point ces choses. Voilà. Gloire au Seigneur, il est le Dieu des vivants. Amen.